OK. Donc là, on recommence. On relit le passage de Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3. « Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Alors, on va débuter par prier. Alors, notre Dieu, notre Père, nous venons à ta présence. Nous te demandons ce matin que ton esprit nous éclaire, nous guide, nous fasse comprendre les principes qu'il y a à comprendre dans ce passage, de manière à ce que nous le mettions en pratique dans notre vie de tous les jours, et tout cela pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, OK, le passage de Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3, j'ai donné comme titre « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ». Alors, on va regarder les trois versets. C'est comme le premier verset, dans le verset 1, on voit le combat que Paul il dit « Je veux que vous compreniez le combat dans lequel je suis engagé pour propager l'Évangile ». C'est important que les gens comprennent ça, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il a vécu, lui, avec l'Église de Colosse, pour comprendre. Quand il dit « Je veux que vous sachiez le combat », c'est important qu'on réalise quel combat il avait vécu. Le deuxième verset, ça serait les buts de la propagation des trésors. Autrement dit, il veut qu'ils comprennent le combat dans lequel il est, mais il veut aussi qu'ils comprennent le but pour lequel il fait cette lettre-là. Dans le fond, une épître aux Colossiens, c'est une lettre qui est écrite aux Colossiens dans le but qu'ils comprennent certaines choses. Donc, les buts de la propagation des trésors, on va le regarder dans le verset 2. Et dans le verset 3, on va regarder les côtés cachés des trésors, parce que le texte dit « caché » ou « renfermé ». On va voir tantôt, on va expliquer tout cela, ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai voulu retourner dans l'étude que j'avais déjà faite sur, c'est-à-dire le survol que j'avais déjà fait de l'Épître aux Colossiens? C'est qu'à un moment donné, c'est très difficile de comprendre une épître ou un passage des Écritures si on ne le situe pas dans son contexte. Et souvent, c'est ça qu'on va faire, on va prêcher sur Colossiens 2, chapitre 1 et 3, mais on regarde pas qu'est-ce que l'Église vivait, c'est à quoi leurs circonstances, puis on a besoin de connaître ça. Parce que si on ne connaît pas ça, on peut faire dire au texte des choses que le texte ne dit pas. Alors, l'Église de Colosse n'avait pas été fondée par l'apôtre Paul. Ça, c'est important, vous réalisez tout de suite cela. Elle a été le fruit indirect de 3 années d'activité apostolique à Éphèse, où Épaphras et Philémon ont dû faire sa connaissance et se convertir. Ils sont retournés ensuite dans leur ville, qui était Colosse, et ont fondé une église, composée essentiellement d'anciens païens. C'était pas des juifs, c'était des anciens, des païens, qui se réunissaient dans la maison de Philémon. Bon, ça c'est juste pour donner une petite idée de départ. Maintenant, il faut comprendre qu'il leur écrit dans un contexte d'hérésie. On va en parler un peu. Les dangers précis contre lesquels Paul met en garde les Colossiens et la doctrine des faux docteurs peuvent être déduits de l'épître elle-même. Si tu prends l'épître, tu l'étudies d'aplomb, tu vas te rendre compte des principaux problèmes que cette Église-là rencontrait et que Paul voulait les avertir de dangers qui couraient. Alors, cette hérésie insistait sur plusieurs choses. Premièrement, l'accomplissement strict des rites juifs. Donc, il y avait une tentative de vouloir retourner vers les rites juifs, circoncision et tout ça. En plus, on y trouvait la philosophie. Il dit, parce que quand vous étudiez Colossiens, vous allez voir qu'il dit aux chrétiens de se méfier des philosophies. Alors, il y avait des problèmes qui étaient introduits dans l'Église, qui était dû à la philosophie. Il y avait aussi, dans le verset 18 du chapitre 2, il y avait, à l'époque, un début d'adoration des anges. Alors, c'est sûr que c'est pas un petit problème dans une église. Si quelqu'un arrive dans une église et se rend compte que certains des membres qui sont dans l'adoration des anges, il faut qu'ils leur disent « Oh, un instant, c'est Christ qu'on adore, c'est Dieu qu'on adore, et pas des anges. » Aussi, il y avait, dans le verset 23 du chapitre 2, un mépris ascétique pour le corps. Là, autrement dit, la 16, les gens commençaient à dire « Le corps, ça, c'est pas bon. » Alors, la 16, qui était connue dans le temps de Luther, tu sais, je crois que la 16, ça vient de là. Tout cela était enseigné comme un mystère à certains initiés sous le sceau du secret. Alors, c'était déjà à l'époque, on voulait dire un peu comme aujourd'hui, qu'on aspirait à la divinité ou à la compréhension de Dieu par une initiation. Il y a encore du monde qui joue là-dedans aujourd'hui. Alors, c'est de comprendre, avant que Paul commence à leur dire quoi que ce soit, de comprendre dans quelle situation ces gens-là. Alors, tous ces dogmes-là sont ceux de l'hérésie connue sous le nom de gnosticisme, la gnose, l'accès à Dieu par la connaissance, qui se transmet de façon secrète, mais par des initiations, des affaires de même. Et ces choses-là avaient commencé à pénétrer dans les églises. Alors, c'est sûr que Paul, même si c'est pas des églises qu'il avait fondées, il était au courant, et là, il voulait, autrement dit, les remettre sur la traque, parce qu'il s'en allait, il commençait à dérailler un petit peu. Alors, cette hérésie-là, ça mélangeait des éléments de la religion populaire, de l'Asie mineure, et des rites magiques, et certaines notions juives sur la création de l'univers et des théories tirées de la philosophie grecque. Alors, Paul vient ici réfuter certaines affaires. Premièrement, il veut leur rappeler que l'Évangile est la vraie sagesse, et non pas une sagesse qui t'est transmise par les hommes de façon secrète et qui est une initiation. Il veut leur dire, non, non, l'Évangile, c'est la vraie sagesse, et non pas ce que eux prétendaient être la sagesse, voulaient transmettre. Deuxième chose qu'il veut leur montrer, que Christ est le seul médiateur qui est pleinement suffisant. Au-dessus de l'autre, il avait introduit une notion que c'était pas uniquement Christ qui était médiateur, mais il y avait les anges. Fait que tu vois que où ça pouvait les mener. Troisième chose, il voulait leur montrer que les pratiques ascétiques sont non seulement nuisibles, mais qui sont inutiles. Quatrième chose qu'il voulait leur montrer, c'est que le vrai remède est une nouvelle vie en Christ. Et là, j'ai des versets, moi, on ne pourra pas aller voir tous les versets, mais ce sont des versets qui sont dans l'Épître aux Colossiens. Et la cinquième chose, il voulait leur rappeler que l'Évangile est pour tous, et non pas quelque chose de réservé à des privilégiés. Alors, c'est bien important de saisir qu'ici, une des choses importantes qui est dans le livre de Colossiens, c'est qu'il veut replacer Christ à sa place, non pas à la place secondaire. Alors, cette épître est fort importante par son enseignement sur la personne et l'œuvre du Christ. Elle réfute complètement l'hérésie des Colossiens. Christ est le seul médiateur absolu entre Dieu et la création. Par son côté divin, il est pleinement Dieu, image du Dieu invisible et possédant la plénitude de la divinité. C'est un gros morceau. Par son côté humain, il est le Seigneur de l'univers. Toutes choses viennent de lui et par lui et pour lui. C'est en lui qu'elles sont venues à l'existence et qu'elles continuent à subsister. C'est en lui qu'elles atteindront leur perfection. Enfin, sur le plan de la création spirituelle, il est la tête du corps de l'Église. Par le sang de sa croix, toutes choses sont réconciliées avec Dieu. C'est en lui que l'Église a sa fondation, qu'elle est construite et qu'elle est achevée. Chaque membre du corps est en liaison directe et vivante avec lui, qui est la tête. Il unit tous les membres à Dieu et les uns aux autres. Ainsi donc, il a la prééminence en toutes choses. Il faut saisir ça. Alors, considérant, je pense que Paul est en train de faire trois choses avec les trois versets. La première chose qu'il fait dans le verset 1, c'est une conscientisation du peuple de Dieu. Ça, je pense que c'est une chose qu'on a besoin d'apprendre nous-mêmes. Parce que on a besoin d'être conscient des efforts, des souffrances que ceux qui ont fondé une église. Prend du temps à fonder une église. Des fois, ça prend 8-10 ans, des fois davantage, des fois plus court, mais il n'y a pas de règle là-dedans, là, mais ça prend du temps. Et ça prend des efforts, et il y a bien de la souffrance là-dedans, il y a des arrivées, des départs, des obstinations, il y a toutes sortes de choses. N'importe qui a déjà connu un peu un début d'église, il sait que toutes ces choses-là sont là. Donc, le verset 1, il veut que les gens à qui il s'adresse comprennent que ceux qui fondent une église ont beaucoup souffert. Parce que si on prend conscience de cela, on ne voit plus les serviteurs de ceux qui ont débuté une église de la même façon. On est bien plus porté à les critiquer, puis à lui trouver toutes sortes de bébites, qu'à trouver, à essayer d'apprécier l'effort qu'ils ont mis là-dedans. Parce que des fois, on le voit pas, on l'oublie. Mais c'est pour ça qu'il dit, il commence à dire, « Je veux, » Paul est précis, là, « Je veux que vous sachiez qu'est-ce que ça coûte de fonder une église. » Donc, le deuxième verset, le premier verset, je le résumerai par un mot, « conscientisation ». Il veut conscientiser l'église locale de Colosse, même que c'est pas lui qui l'a fondée, que ces gens-là comprennent l'effort des dirigeants pour installer, inaugurer, implanter une nouvelle église. Donc, la deuxième idée, qui est dans le verset 2, c'est celle de la consolation. Il veut leur faire comprendre ces choses-là dans le but de les amener à être consolés de certaines choses en particulier. Et la troisième idée, c'est celle de la contemplation, quand il dit « en Christ, en Dieu, en Dieu et le Père et en Jésus-Christ sont cachés ou renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Ce verset-là, j'ai été renversé de trouver la signification et la richesse de tout cela. On va commencer par le verset 1. Le combat pour propager les trésors. Donc, quand on veut installer une nouvelle église, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire connaître à une communauté la personne de Christ, son œuvre, et de Dieu le Père, et de Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qu'on veut faire, en réalité. On veut conscientiser les gens. Alors ici, j'ai pris la version, le verset 1, et je le relis. « Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat. » C'est important de saisir le mot, le combat. C'est un combat. Partir une église avec les années que ça prend, les efforts que ça prend, les sacrifices que ça prend, les luttes qu'il y a des fois, les chicanes. Quelqu'un qui persévère, c'est parce qu'il est vraiment, il veut faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et il sait qu'il va être capable de vaincre tous les problèmes qui vont arriver. Je veux que vous sachiez en effet combien est grand. Autrement dit, le combat, c'est pas un petit combat. C'est quelque chose qui vient te chercher dans ton être intérieur et que tu vas te battre avec les ennemis, les démons, tu vas te battre avec même des péchés de chrétiens et tu vas te battre de ça à longueur d'année. C'est très difficile, très exigeant. Je pense que le verset 1 vient de nous rappeler le rôle des dirigeants dans les églises. Plutôt que de passer notre temps à les critiquer, je sais que ça fait longtemps que je vis dans une église pour savoir que j'ai déjà été un des plus grands chialeux dans les églises. Mais à un moment donné, quand on se rend compte que c'est pas notre travail de corriger le pasteur ou de corriger l'enseignant, c'est le travail de Dieu. Vous êtes bien mieux de vous installer chez vous, mettre à genoux et de prier pour lui. Ça, il en a besoin, qu'il soit marié ou non. Combien est grand le grand combat que je soutiens pour vous. Et ça, ce qui est vraiment remarquable, parce qu'il dit, et pour ceux de la Odyssée, une autre église qu'il n'a pas fondée, et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne. Autrement dit, si ça vient nous ouvrir, je pense, l'esprit à la conscientisation universelle. Il prie pour des églises qu'il n'a pas fondées, mais il sait qu'elles existent. Il sait qu'il y a une église à Colosse, il sait qu'il y a une église à Laodicée, puis il est conscient qu'il y en a d'autres qui ne l'ont jamais vu. Mais il parle pour eux. S'il n'y a pas une petite leçon pour nous là-dedans, là, je me demande que ça nous prend. On a une leçon pour nous. Autrement dit, on ne doit pas se soucier uniquement de notre petit confort personnel d'une église locale. On se doit d'avoir l'esprit un petit peu plus large, d'aller chercher, de prier pour les églises qu'on connaît, même dans notre petit Québec, mais encore plus loin que ça. Il dit, pour ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Moi, j'ai jamais vu le visage de Paul. Donc, il priait pour toutes les églises, de toutes les époques, de tous les temps, de tous les pays. Il faut avoir, je pense, quand il dit « je veux », que vous compreniez le combat, le grand combat dans lequel j'ai vécu, il veut que les chrétiens prennent conscience qu'on ne peut pas s'enfermer juste dans notre petit milieu puis se satisfaire de ça. Oui, on se doit de satisfaire de cela, mais on doit élargir beaucoup pour inclure d'autres églises, même qu'on ne les a jamais vues. Moi, j'ai déjà prié pour des églises en Chine, des églises en Amérique du Sud. Là, je prie pour un missionnaire que je connais qui est à Madagascar. Je les ai jamais vus, ces gens-là, à Madagascar. Je ne peux même pas savoir leur nom, je ne sais pas c'est quoi leur problème, leur difficulté. Mais je sais une chose, c'est que je prie pour... Il s'appelle Narendra, c'est un malgache. Je prie pour lui de façon régulière. Je pense que c'est ça que Paul veut introduire dans le verset 1. Alors, l'apôtre Paul croit qu'il est nécessaire que les récipiendaires de l'Épître comprennent certains principes chrétiens très importants. On va le regarder. Premièrement, il veut que les chrétiens comprennent qu'annoncer l'Évangile est un combat coûteux. Asseyez-vous, là, si vous ne croyez pas, là. Partez de l'église d'ici, puis allez-vous dans une ville où ils sont reconnus qu'il n'y a pas rien, il n'y a rien là, rien de chrétien là, puis essayez d'en partir une église. Là, vous allez avoir une idée que annoncer l'Évangile, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose en argent, ça coûte quelque chose en énergie, ça coûte quelque chose en sacrifice. Ceux qui vont étudier la parole de Dieu 3 puis 4 ans dans un séminaire, ben, venez-vous. Le temps qu'ils ont mis là-dedans, les efforts qu'ils ont mis là-dedans. Puis souvent, je sais pour l'avoir déjà fait moi-même, critiquer ces gens-là. Alors qu'ils ont des fois donné 3, 4, 5, 10 fois plus que tu as donné toi-même. Il faut prendre conscience de cela, je pense. Parce qu'à ce moment-là, ça change notre perspective dans la manière d'apprécier ceux qui amènent des choses dans l'Église. Donc l'Évangile est un combat coûteux. Ici, si on reculerait juste un petit peu, on est dans le Colossiens chapitre 2, mais si on recule dans les versets 24 à 29 de Colossiens, il dit, Paul dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Donc, un ministère d'évangélisation, c'est souffrant. Il dit, « Pour vous, et j'achève de souffrir en ma chair les restes des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église, dont j'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est aussi à quoi je travaille en combattant par sa vertu qui agit puissamment en nous. Il parle de plusieurs choses là-dedans. Les souffrances, les afflictions, puis le travail. Il n'y a pas un homme qui va venir me dire ici qu'il a fondé une église puis qu'il n'a pas eu ça dans sa vie. Il va souffrir. Et il va avoir des afflictions de toutes sortes. Les gens viennent dans son église, là, ils quittent pour rien, puis tu sais pas pourquoi, bien souvent. Toutes sortes d'affaires de même. Tu vis ça, là, quotidiennement, pendant des années, des fois. Ça prend beaucoup de courage pour implanter une église. Et après ça, il dit, c'est aussi ce à quoi je travaille. Ça demande du jus, comme on dit. Avez-vous déjà essayé d'aller faire de l'évangélisation porte à porte? Vous défie, essayez-le. Vous allez voir que ça coûte quelque chose, parce que tu arrives devant une porte, tu cognes, puis des fois, tu... c'est des genres de choses comme ça que tu vas vivre, mais tu peux pas implanter une église si tu fais pas des contacts, puis s'il y a pas de la souffrance, puis s'il y a pas des afflictions qui sont là-dedans. La deuxième chose, je pense qu'il veut leur montrer comme principe du verset 1, c'est que la propagation de l'Évangile doit être universelle et s'étendre au-delà des personnes connues. On a notre petit milieu, on est à l'aise, mais souvent là-dedans, on dit, c'est correct. Mais ce qui n'est pas correct, c'est de juste rester enfermé dans notre petit milieu. Il faut sortir, aller voir plus grand, espérer qu'il va y avoir des nouveaux membres qui vont se joindre à nous. Puis quand il y en a un qui se présente pour de nouveaux membres à nous, c'est à nous de l'accueillir pour que la personne se sente accueillie, se sente aimée. Ah, je n'ai pas sorti de cette assemblée-là, ils sont chaleureux. Mais ça, c'est notre job à nous. Donc, il dit que le combat que je tiens pour vous, pour ceux de la Odyssée, pour ceux qui n'ont jamais vu en personne, ces deux églises-là, Colosse et la Odyssée, ils les ont pas fondées, mais je pense que ça vient nous apprendre que ceux qui partent des églises, ils souffrent, ils ont des afflictions, ils travaillent, et nous, on se doit d'essayer de voir plus grand que notre petit milieu. Pensez-vous ici, comme chrétien, qu'on peut avoir de l'influence jusqu'à l'autre bout du monde? Moi, je trouve que Madagascar, là, c'est loin, j'ai jamais été là de ma vie, dans le sud de l'Afrique. Je suis sûr, et ça, j'en suis pleinement convaincu, que la prière que je fais pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour le groupe à lequel il s'adresse, il est en train de leur amener l'Évangile dans ces pays-là, c'est pauvre, pauvre, pauvre. Plus pauvre que ça, ça se peut presque pas. Alors, on est ici, dans le confort, mais on peut influencer des gens qui travaillent pour le Seigneur dans d'autres pays. Et il n'y a pas juste ce pays-là. Quand vous lisez un petit peu, un moment donné, je me souviens, j'avais fait à l'église, on avait fait une série sur les persécutions des chrétiens dans le monde. J'avais trouvé un site web là, qui donnait tous les pays dans lesquels les chrétiens étaient persécutés. C'est pas des petites affaires. Ils sont mis en prison, ils sont battus, sont... Et bien souvent, nous, dans nos prières, on n'a même pas de prière pour la Russie, pour la Chine. On se devrait d'avoir une liste et de prier pour ces choses-là de façon régulière, parce que ça change quelque chose dans la vie de ces gens-là. Il faut en avoir la conviction pour le faire tous les jours. Parce qu'on dit ça, là, puis là, on arrive chez nous pour deux, trois jours, on prie pour deux, trois pays, puis là, première nouvelle que tu sais, on ne prie plus du tout. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est moi. C'est peut-être vous. En tout cas, ça n'a pas voulu de nous faire prendre conscience que ces choses-là, ça doit d'être... on se doit d'avoir plus de ferveur pour le salut des âmes et essayer de que ça aille plus loin que notre petit milieu. Le verset 2, les buts, je l'appelais les buts de la consolation, où on pourrait dire l'idée fondamentale de ce verset-là, c'est vraiment la consolation. Il dit dans le verset 2, « afin ». « Afin », ça veut dire « dans le but de ». Il fait ces choses-là, il souffre, les afflictions, le travail, mais il y a un but. « Dans le but, afin que leur cœur soit consolé. » Ah, s'ils prennent conscience des efforts de Paul, leur cœur va être consolé. Intéressant comme idée, hein? Deuxièmement, lier étroitement ensemble dans la charité. Si tu prends vraiment conscience du verset 1, ça va lier nos cœurs dans l'amour. Lier, ça veut dire on développe des liens. Vous remarquez ça, comment ça prend du temps de développer des liens dans une église? Moi, je sais par expérience. On veut des fois, mais pour toutes sortes de raisons, la communion fraternelle, souvent, ça les résume à 5 minutes après le culte. Fait que moi, quelqu'un avec qui je parle 5 minutes après le culte, puis même pas toujours avec lui, c'est sûr qu'il peut se passer des années avant que je chale gros de même de sa vie. La communion fraternelle, c'est quelque chose qu'on se devrait de se forcer pour faire, pour tisser les liens. Ça le dit, c'est les liens de l'amour. Parce que comment puis-je prier intelligemment pour quelqu'un que je ne connais pas, puis que je ne connais pas ses problèmes non plus? Alors ça, c'est une chose, je dirais, qu'on a à apprendre. Donc, la consolation. Cœur consolé, lié ensemble dans la charité, pour être enrichi d'une parfaite intelligence. Donc, il y a trois choses. Il fait, le verset 1, il fait pour trois raisons. Consoler les cœurs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, de nos jours, avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'on n'a pas besoin d'être consolé? Comment peut-on être consolé si on ne va pas à nos cultes? Ça, c'est une tendance que j'ai remarquée au cours des dernières années. Et ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois ça. On dirait que les gens ne sont plus pleinement conscients de la nécessité de se rejoindre le dimanche et de ne pas manquer pour des raisons futiles. Là, il faudrait définir ce qu'on entend par futile, là. Mais en tout cas. Donc, les cœurs consolés. Si on fait ça, nos cœurs vont être consolés. On a besoin de consolation avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les familles, avec tout ce qui se passe dans les églises. Des fois, on est dans une église, on a même des conflits entre nous, on les règle pas. Ça aussi, je le sais par expérience. On les règle parfois, pas tout le temps de la bonne manière. Donc, on se devrait d'être lié, ça dit bien, étroitement dans la charité ou dans l'amour. Et le troisième mot, là-dedans, il y a trois mots. Consoler, lier étroitement, donc être ensemble. Et le troisième, c'est enrichi d'une parfaite intelligence. Donc, à quelque part, Paul est en train de les préparer parce qu'il va emmener le verset 3, et c'est dans le verset 3 qu'il va leur faire comprendre la parfaite intelligence de quoi il parle. Donc, Paul désire quatre grâces au récipiendaire de sa lettre. Premièrement, la consolation et l'affermissement dans la foi, afin que leur cœur soit consolé. Les nouveaux chrétiens ont souvent un grand besoin d'être consolés et d'être affermis. Les chrétiens qui sont éprouvés, quelle église ne connaît pas dans son milieu quelqu'un qui est éprouvé sérieusement? On en connaît, on pourra nommer des noms. Ce n'est pas le but de tout ça ce matin. Le but, c'est de comprendre qu'on a besoin, des fois, les ceux qui sont éprouvés ont besoin d'être réconfortés. Ils sont éprouvés par plusieurs choses. Les faux enseignants, les ruses et les séductions des hommes et de Satan. Ça fait beaucoup de choses. Nous devons remarquer que Paul, dans ses désirs pour eux, ne donne pas priorité à la santé physique, au bonheur terrestre, à la richesse et aux honneurs de la terre. Vous remarquez qu'il n'a rien demandé de tout ça pour les chrétiens? Pourtant, on pourrait dire, j'aimerais ça qu'il soit riche, j'aimerais ça qu'il soit à l'aise, j'aimerais ça qu'il soit en bonne santé. Il ne demande pas rien de tout ça. Il veut la prospérité de leur âme. Ça, c'est un autre game. Les chrétiens ont besoin d'être réconfortés parce que leurs esprits peuvent encore ressentir de la détresse à cause du péché. N'est pas me dire que vous n'avez jamais ressenti de détresse à cause de votre péché et à cause du péché des autres. Ça nous met dans un état de détresse et on a besoin d'être consolés. Donc, le péché continue de nous habiter. Le malin continue de nous solliciter. Et des fois, le Seigneur, pour des raisons qui lui sont... Il les mentionne pas tout le temps. Des fois, il nous cache sa face. Et quand il nous cache sa face, là, c'est pour nous éprouver. Comme une fois dans l'Ancien Testament, c'est mentionné. Donc, première chose, on parle de quatre grâces. Consolation, affermissement dans la soie. Deuxième chose, leur étroite unité dans l'amour. Liée étroitement ensemble dans la charité. L'amour, c'est le ciment entre les croyants et Dieu. Je connais pas votre histoire personnelle, mais moi, ça fait 40 quelques années, là. Je peux vous dire une chose, c'est que dans les églises, j'ai pas toujours vu de l'amour. Une fois, je vois d'autres choses que de l'amour. L'amour, c'est chaleureux, hein. Disons que quelqu'un arrive chez vous, c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup. Ah, bonjour! Mais des fois, on n'a pas toujours cet accueil-là dans les églises. Alors, d'être étroitement lié dans la charité. Troisième chose, il leur dit, la quatrième grâce qu'il leur souhaite, leur enrichissement dans la compréhension des choses divines. Je sais pas, ça doit jouer entre 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans, 40 ans qu'on est sauvé aujourd'hui. Pensez-vous qu'on atteint un plafond, là, puis que là, notre enrichissement peut pas être augmenté? Impossible. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu connais tes Écritures, plus tu te rends compte que dans le fond, les choses divines, c'est inépuisable, insondable, t'as encore beaucoup à apprendre, t'es encore en maternelle. Je dirais ça facilement. Donc, la compréhension des choses de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement riche que toute une vie humaine ne saurait la compléter exhaustivement. Toute une vie humaine, c'est beaucoup. Disons que t'es sauvé à 18 ans, puis tu te rends jusqu'à l'âge vénérable, disons, de 78 ans, ça fait 60 ans, là. Puis disons que tu étais une personne bien zélée, tu as toujours lu ta Bible à tous les jours, tu as toujours lu des commentaires, tu as toujours prié, tu as toujours réuni avec tes frères, tu as vraiment manqué une seule fois. Là. Pensez-vous que vous avez encore des choses à apprendre après 60 ans de vie chrétienne? Je dirais plus que jamais, parce que vous prenez de plus en plus conscience de votre misère, de votre faiblesse, et de plus en plus conscience de la grandeur insondable de Dieu. Et un moment donné, quand on saisit le fossé qui est entre les deux, là, c'est tellement profond. Des fois, là, moi j'ai lu des biographies, des fois, puis des faits. J'aime ça lire leurs derniers mots. Souvent, j'ai lu ça à plusieurs reprises. Là. Les grands serviteurs de Dieu, quand ils décèdent, ils disent, « Seigneur, prends pitié du misérable pécheur que je suis. » Il est rendu à la fin de sa vie, il a fait pour le Seigneur 50 fois plus que j'ai fait. Puis il dit au Seigneur, je suis qu'un misérable vermisseau. Ça veut dire que la parole de Dieu nous humilie, donc nous rend plus petits, et la parole de Dieu nous fait comprendre de plus en plus la grandeur du Seigneur. Quatrième grâce, c'est leur connaissance élargie du mystère de Dieu le Père et de Christ. Il dit, pour connaître le mystère de Dieu, le Père et de Christ. Le mystère, c'est pas quelque chose qu'on comprend pas. Le mystère, c'est quelque chose qui n'était pas dévoilé anciennement, mais qui est dévoilé maintenant. Il dit, il veut qu'ils connaissent le mystère de Dieu et le Père, Dieu le Père, et de Christ. Et là, quand il dit, en qui sont renfermés, certaines versions vont dire, en qui sont cachés. Fait que là, on se dit, cachés? Voyons, non. Cachés pas pour les chrétiens. Cachés pour ceux qui ne veulent pas laisser le Seigneur leur parler, qui ne veulent pas croire à ce que les Écritures enseignent. Donc, en qui sont renfermés? Là, il ne dit pas un trésor. En qui? Il parle de Dieu le Père, il parle de Dieu le Fils, puis c'est sûr que Dieu, Saint-Esprit est inclus, sont renfermés pour cacher tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul a déjà mentionné qu'il a été fait le ministre et que la charge lui a été donnée par Dieu pour annoncer ce mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui n'était pas dévoilé dans le passé, que Dieu permet qu'il est maintenant dévoilé à ses saints. Dans Colossiens, chapitre 1, versets 25 à 26, il parle de l'Évangile, il dit « dont j'ai été fait ministre » selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant révélé. Donc, il y a eu une époque où les choses de Dieu, les choses de Christ étaient cachées. Maintenant, nous, Dieu, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ces choses-là. La glorieuse personne de Christ, dans ce verset-là, la dernière partie du verset 2, vient nous donner la personne de Christ comme sujet de méditation. Donc, les croyants vont percevoir davantage la divinité ou la déité de Christ. Ces offices, on rentre un petit peu dans la théologie, ces offices sont découverts et appréciés. Son office de prophète, son office de sacrificateur ou de prêtre, puis son office de roi. On commence à de plus en plus, il y a des livres sur des paix qui ont été écrits juste sur ces trois mots-là. Donc, il y a de quoi apprendre, là, beaucoup. Donc, en méditant sur Christ, les chrétiens vont entrer dans toutes les merveilles de l'incarnation, de la justification, du pardon et du don de la vie éternelle. Quand on parle des merveilles, un gars, là, il s'en va dans la vie, là, puis qu'il se dirige directement vers l'enfer, là, qui était notre cas à tous, que Dieu vient te chercher. Il révèle la personne de Christ en toi. Il te montre ton état de perdition, ton état de pécheur. Puis qu'il te donne la vie éternelle. On a les écrits de Paul, quand il dit qu'il est allé au troisième ciel, il dit qu'il y a des choses ineffables qu'on ne peut pas dire. Ça donne des choses qui nous dépassent de beaucoup. On a reçu ça, puis vient un temps avec les années, là. On dirait que salut, c'est normal. Pas si normal que ça. Arrêtez-vous de penser. Où est-ce que vous en allez? Qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé? Et où tu t'en vas maintenant grâce à Christ? Alors, l'erreur théologique que Paul essaie de corriger auprès des Colossiens et les faux enseignements, ça produit toujours des effets directement opposés à la vérité. Ça va ébranler ta foi. Si tu dis que les anges ont un rôle là-dedans, si tu dis que c'est par initiation que tu vas atteindre Dieu, c'est des erreurs graves, il faut que tu sois corrigé. Ça ébranle la foi, ça désunit les chrétiens, puis ça appauvrit l'intelligence. Parce que là, tu n'es plus dans les vérités du Seigneur, tu es dans des philosophies d'hommes, tu es dans des idées d'hommes, tu es dans des, je dirais même, des faussetés du démon. Parce que tu es en train de dire à quelqu'un qu'il peut être sauvé par une initiation secrète, tu n'es plus dans l'Évangile, plus du tout. Et imaginez-vous le cœur de Paul. Il a fait le tour, je ne sais pas combien d'églises, il en a fondé plusieurs, mais ces deux-là, et ceux qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de moi, il ne les connaît pas. Mais il sait par des chrétiens qui voyageaient dans le temps, les problèmes qu'ils rencontraient. Et il les aime assez, même s'il ne les connaît pas du tout, pour venir leur dire, faites attention ici, faites attention à ça, faites attention à ça. Puis leur ramener Christ au centre. Parce qu'ils sont en train de s'égarer, la philosophie, le gnosticisme et toutes ces affaires-là. Alors, très important. Alors lui, il veut des chrétiens solides et inébranlables. On va regarder maintenant le verset 3, qui dit... En qui sont renfermés? Dans la version Osterwald, c'est en qui sont renfermés. Dans certaines versions, c'est en qui sont cachés. Fait que là, on se demande, ben, si c'est caché, je pourrais pas le savoir. Mais ils sont cachés pour les ennemis de Dieu. Ils sont cachés pour les païens. Ils sont cachés pour ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui est écrit dans les Écritures, pour comprendre la personne de Christ, pour comprendre qu'ils sont perdus. Eux, toutes ces choses-là, va parler avec un païen, Jésus-Christ, il sera pas émerveillé de ça. Mais parle avec un chrétien, puis parle-y avec des versets, puis à un moment donné, il va allumer, il va dire, ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui. Là, il va s'émerveiller. J'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot contemplation. Parce que je disais que l'idée fondamentale du verset 3, c'était la contemplation. Le dictionnaire de Petit Robert va définir le mot contemplation de la manière suivante. Action de contempler, le fait de s'absorber dans l'observation attentive et généralement agréable de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, autrement dit, quand on se met à regarder Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qu'on le fait, comme il dit, là, attentive, généralement c'est très agréable, on aime ça. De quelqu'un, bien sûr, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou de quelque chose, on parle de son salut, on parle de son œuvre. Alors, la version Darby, Louis II, et nouvelle édition de Genève traduisent les mots qui sont dans la Osterwald, renfermés, et d'autres qui les traduisent par cachés. À celui qui ne veut pas renoncer à sa propre sagesse ou à sa justice propre, ou qui prétend puiser ailleurs que dans les Saintes Écritures et dans la personne de Christ, la science du salut demeure cachée et véritablement fermée. Ils sont renfermés, ils ne peuvent pas comprendre. C'est juste quand tu es né de nouveau que tu commences à saisir ces choses-là, et que plus tu avances dans la foi, plus tu avances dans la méditation des Écritures ou dans l'étude des Écritures, plus ces choses-là deviennent merveilleuses. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 28 à 30. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. J'ai regardé un petit peu dans la... Je ne sais pas si vous connaissez le théologien Wayne Grudem. Il écrit une brique sur la théologie. C'est très intéressant. Voici ce qu'il dit sur la sagesse de Dieu. Comment il voit la sagesse de Dieu? Il a défini, premièrement. Il dit, la sagesse de Dieu signifie que Dieu choisit toujours les meilleures fins et les meilleurs moyens pour y parvenir. Autrement dit, Dieu, quand il conçoit quelque chose, il n'y a pas d'erreur dans son plan. Son plan est parfait, son plan est infaillible, il va se rendre au bout, c'est sûr et certain. Donc, il voit la sagesse de Dieu dans trois choses. Il la voit dans la création. Psaume 104, verset 24. « Ô Éternel, que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes richesses. » Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, ce qu'on voit autour de nous autres, l'apôtre est en train de dire que tout ce que Dieu a fait, un insecte, un oiseau, un poisson, « open your eyes », comme ils disent en anglais, puis tu vas voir les choses. Après ça, il y a le plan de la rédemption. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. « Mais pour tous ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Donc, quand Dieu a choisi Christ pour venir nous racheter, tout était parfait à l'intérieur de ça. C'est vrai, des fois, on pense, tu sais, l'incarnation, le fait qu'il ait choisi un enfant qui était un bébé, il a grandi, le fait qu'il était sans péché, le moyen que le Seigneur a utilisé pour qu'il soit sans péché. Aujourd'hui, dans certains théologiens, des faux théologiens vont dire que la naissance virginale, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Donc, si Christ ne serait pas né d'une vierge qui était sans péché, lui, il serait né avec le péché. Donc, il y a certaines choses comme ça qui sont annoncées dans les Écritures qui sont très...
Quoi? Une vierge sans péché?
Non, pas une vierge sans péché, c'est qu'il fallait que la personne du Rédempteur soit sans péché, et pour qu'elle soit sans péché, il fallait que ça soit d'intervention directe du Saint-Esprit dans le ventre de la mère, qu'elle puisse naître, qu'elle puisse venir un enfant de elle, tout en étant vierge, tout en n'ayant pas eu de relation avec un homme. Donc, la sagesse de Dieu, dans Romains 8, 28, on l'a dit, je ne sais pas comment fois ça l'est très souvent. Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je ne l'ai pas entendu mille fois, celle-là, je ne l'ai pas entendu une seule fois. Mais pourtant, si je la comprenais en profondeur, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut arriver dans ma vie que Dieu ne permet pas pour mon bien. Qu'est-ce que j'ai à hurler? Qu'est-ce que vous avez à hurler? On ne devrait jamais hurler. Parce que ce verset-là, il nous dit, « Or, nous savons que toutes choses, il y a des choses qui nous déplaisent dans la vie, qui nous arrivent dans le quotidien, ah, il y en a plein, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et voici ce qu'il nous dit dans le verset 29, très intéressant aussi. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier de plusieurs frères. » C'est quoi le but qui nous amène des choses qui nous défrisent dans notre vie, tu sais, qui nous dérangent? Veux-tu bien me dire pourquoi ça m'arrive? Avais-tu besoin de ça, moi, là? Comment de fois qu'on dit ça, des affaires de même? Pourtant, si ça t'arrive, c'est parce que le Seigneur considère que c'est ça que tu as besoin. On ne devrait jamais chialer. On va remarquer qu'on chiale tout le temps. Alors, il faut absolument aller devant le Seigneur et confesser nos péchés. La sagesse, dans Jacques 1,5, ça nous dit, « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, je ne sais pas si c'est votre cas, là, mais moi, là, quand je prie le Seigneur là, pour ce verset-là, je lui dis, donne-moi-en une quantité industrielle, parce que c'est vraiment, je sens, j'en ai pas. Fait que si je veux suivre le Seigneur, obéir à ce qu'il me demande, être fidèle, être soumis à lui, avoir la crainte de Dieu, ça me prend de la sagesse. Combien de fois on a prié cette semaine pour la sagesse de Dieu? On devrait prier tous les jours pour la sagesse de Dieu. Dans le psaume 19, verset 8, ça dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. » C'est Dieu qui donne. Alors, il ne faut pas se priver, se gêner à tous les jours. Si on y pense, on devrait demander au Seigneur une bonne prière. Permets qu'à tous les jours, j'y pense de te l'en demander. Puis si vous pensez que ça n'aura pas d'effet sur vos vies, vous trompez sérieusement, là. Ça va avoir de l'effet sur vos vies. Bon. Tous les trésors de la connaissance, ok, on va aller jusque-là, professeur Varadé. J'aurais eu plus long, mais en tout cas, je veux juste vous parler du mot science. Parce que quand on lit dans le passage le mot science, qu'est-ce qu'on est porté à penser? La physique, la chimie, la biologie. Est-ce que c'est de ça qu'il parle ici? Non, il ne parle pas de ça du tout. C'est le mot, dans les différentes versions, le mot grec utilisé, c'est gnosis. Gnosis. Gnosis, ça veut dire connaissance, science, sagesse. On parle de choses spirituelles. Donc, la connaissance, dans le verset, ici, quand il parle de tous les trésors de la sagesse et de la connaissance signifie la connaissance générale de la religion chrétienne. Est-ce que, après 40 ans de vie chrétienne, vous connaissez tout sur la religion chrétienne? Je dirais misère. Petit gars, il te reste encore des croûtes à manger. On sait. Deuxièmement, la science comprend la plus profonde et parfaite connaissance de cette religion. Ça comprend aussi la sagesse morale qui est montrée dans notre manière de vivre. Cette connaissance-là, l'osis, est tellement riche, variée et profonde que l'éternité elle-même ne parviendra pas à atteindre exhaustivement. Dieu nous invite cependant à ce festin et à découvrir méthodiquement et quotidiennement ces glorieux et inépuisables trésors. L'Évangile, les personnes et les œuvres de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit et des Saintes Écritures. C'est ça la science de Dieu. Avant qu'on ait épuisé ça, là, on est, quand on dit, on va être au ciel, on va être en présence de Dieu, puis on n'aura pas encore la... Parce que c'est inépuisable, c'est infini. Donc même au ciel, on continue à apprendre. On l'avait déjà regardé ça, dans un sermon sur la Providence. Donc je vois aujourd'hui trois applications. Donc, des choses qu'on se doit de changer dans notre vie à partir de ce qu'on a étudié. La première, implorons le Seigneur de nous donner d'être conscients et reconnaissants pour tous les enfants de Dieu qui ont travaillé, lutté, peiné et prié pour implanter des églises locales dans le monde et pour le succès de ceux qui sont à l'œuvre présentement de partager l'Évangile. Il y en a encore, là, un peu partout, qui sont en train de faire ce travail-là. Mettons-nous à l'œuvre, nous aussi, avec plus de ferveur et de zèle. Deuxièmement, sachons que l'Évangile produit de merveilleux effets. Il va apporter du réconfort aux esprits en détresse. Il va tisser des liens d'amour entre les croyants. Il va augmenter la connaissance des choses divines du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, des bénédictions et des promesses de notre grand Dieu. Troisièmement et dernièrement, rendons grâce pour tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui sont renfermés ou cachés dans les glorieuses personnes de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Vivons nos vies dans la crainte de Dieu pour les honorer et les glorifier. Loué soit Dieu pour son salut, qu'il soit béni éternellement. Amen.